Et aujourd'hui, on est toujours à la cité administrative pour notre interview, c'est de la locale. On est le 8 mars au moment où on parle, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et pour continuer sur quelques témoignages à propos de cette double table ronde, à propos de la pratique sportive bien chez les femmes, sur pas mal de milieux, hein, c'est une double table ronde avec plusieurs thèmes. Je vais discuter donc avec Karine. Karine, comment ça va? Vous êtes maîtresse de conférence, Karine Guérandel, maîtresse de conférence et chercheuse.
C'est ça, à l'Université de Lille, rattachée au laboratoire CERIES.
Très bien. Et donc aujourd'hui, vous avez bien exposé certaines de vos recherches à propos des pratiques donc sportives, que ce soit dans les quartiers, mais aussi sur le milieu rural, donc chez les femmes adolescentes ou adultes. Voilà. Et vous en avez décelé énormément de détails et de points intéressants à relever, on va dire.
Oui. Alors j'ai surtout, je suis surtout intervenue pour discuter des freins relatifs à la pratique des filles et des femmes en milieu populaire. Alors la commande, c'était urbain et rural, mais moi, mes travaux se centrent essentiellement sur les jeunes filles des quartiers populaires urbains. Et donc, j'ai développé trois points. Alors, il y en aurait d'autres, hein, mais là, aujourd'hui, la commande était là-dessus. Le premier point, c'était un peu sur l'histoire des politiques dites d'intégration par le sport, hein, qui ont pendant très longtemps focalisé sur les garçons et qui, à partir des années 2000, ont commencé à s'intéresser aux filles. Et donc, voilà, on a mis en place une politique active de féminisation du sport dans les quartiers. Et donc, j'ai essayé de montrer que ce retard d'intérêt politique a découlé sur un retard d'intérêt institutionnel, hein, au niveau des filles dans les quartiers populaires urbains. J'ai également développé l'idée que parfois l'offre n'était pas toujours adaptée aux contraintes genrées qui pesaient sur les filles et les garçons des quartiers populaires urbains, avec toute la question de la culture des rues et les logiques de la réputation, de l'honneur, qui à un moment donné contraint les filles dans une forme de discrétion corporelle. Ça a été aussi un deuxième point que j'ai développé. Et le troisième point, c'était lié à la socialisation familiale, qui, de manière statistique, n'est pas favorable à la pratique, à la construction du goût, en fait, du sport chez les filles.
C'est ça, le goût du sport, en fait. C'est surtout aussi un accompagnement. On voit ça souvent que, en fait, le sport, c'est quelque chose qu'on fait assez jeune, mais parce qu'à un moment de notre vie, en fait, on arrête souvent. Ce que vous disiez, c'est au lycée, souvent que ça tombe, ou à peu près, ou un peu après pour certains. Après, en fait, les hommes, eux, des fois, sont poussés à s'y remettre quelques années plus tard, alors que les femmes, beaucoup moins.
Oui, alors déjà, elles commencent plus tardivement. Elles ont une socialisation sportive moins précoce, moins intensive. Quand elles font du sport, elles en font sur des modalités un peu moins importantes que celles des garçons, enfin moins intensives, moins compétitives. Elles ont moins de variété dans les pratiques investies. Dans les quartiers populaires, dès l'adolescence, dès le collège, on voit que ça commence, les filles commencent à déserter les espaces sportifs. Alors effectivement, au lycée, c'est encore plus flagrant. Et vous avez les travaux d'Antatu Colasso qui montrent que, effectivement, à l'âge adulte, les femmes jusqu'à entre 18 et 35 ans font très peu de pratiques sportives parce qu'il y a toutes les contraintes liées à la maternité, au travail domestique, et finalement un peu plus tardivement, les femmes se remettent au sport quand ces contraintes-là liées au foyer et à l'éducation des enfants s'assouplissent. Elles peuvent revenir au sport, et on l'a vu aujourd'hui avec tous les témoignages de ces femmes qui effectivement expliquent qu'elles ont arrêté le sport à cause de la maternité, ou bien qu'elles n'avaient jamais fait de sport avant, et dans une logique de réappropriation de leur corps, de loisirs, de recherche de santé et d'esthétisme aussi. Certaines disaient, finalement, elles s'investissent dans des pratiques.
Et comme aujourd'hui, c'était en plus le thème un petit peu, en fait, comparaison entre rural et urbain, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que justement, même si à chaque fois, bien sûr, la pratique des femmes est clairement en dessous de la pratique masculine au niveau du sport, ça reste quand même dans le milieu rural où il y en a encore moins, visiblement, de pratiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être pourquoi? Est-ce que c'est une question de déplacement ou d'équipement peut-être dans ces zones?
Alors moi, dans les statistiques que j'ai, je pense que c'est à peu près...
C'est 38% pour 36%.
C'est quasiment identique. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire que les filles des milieux populaires, de manière générale, pratiquent moins que les filles des classes sociales. Et dans les quartiers, il y a un facteur quartier dont je parlais, avec toute la socialisation liée au quartier. Et dans les milieux ruraux, il y a aussi toutes les problématiques liées à l'offre qui peut développer, des problématiques de transport également. On est dans des milieux populaires où les rôles parentaux sont très sexués. C'est vraiment multifactoriel. Alors c'est compliqué de donner un facteur explicatif précis, mais effectivement, on est sur des femmes et des jeunes filles qui sont confrontées à un ensemble de freins, familiaux, institutionnels aussi. Il ne faut pas oublier que c'est aussi une volonté politique et des logiques institutionnelles qui peuvent favoriser ou pas. Là, on l'a vu, il y a des initiatives qui peuvent vraiment amener les femmes et les filles à pratiquer. Et en même temps, il y a parfois des logiques structurelles qui freinent aussi le développement de la pratique des filles.
Et vous parlez justement aussi d'offres sportives. Il y a aussi des offres qui sont faites forcément, pas forcément adaptées à la demande. En soi, depuis des années et des années, on définit le sport féminin comme un sport souvent solitaire, où voilà, les femmes vont plutôt faire de la course à pied ou aller faire de la gym, voilà, ou non compétitif. Alors qu'en fait, on voit depuis ces dernières années une recrudescence énorme de clubs de sport, de sport à plusieurs, c'est-à-dire féminins, ou par exemple même des sports qui deviennent presque exclusivement féminins en France, mais collectifs, comme le baseball, qui est apparu en France là, assez récemment, avec des équipes féminines qui apparaissent un peu à droite à gauche en France. Est-ce que aussi il y a cette offre-là qui évolue selon vous ces dernières années, ou est-ce qu'on est toujours sur un peu la même direction, à proposer un peu aussi tout le temps la même chose?
Il y a sans doute des choses qui évoluent. Moi, je peux pas, j'ai pas enquêté dans tous les quartiers de France, et sans doute que je suis persuadée qu'il y a des initiatives locales variées qui peuvent permettre de faire changer certaines choses. Mais globalement, quand on regarde les statistiques nationales sur les taux de licenciés, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de stéréotypes sexués liés aux pratiques sportives, et on est persuadé qu'il y a des pratiques dites féminines, c'est-à-dire qui attireraient davantage les filles. Alors moi, j'aime bien des fois rappeler, alors je les ai pas en tête, mais les chiffres de taux de licenciés, par exemple, sport des différentes fédérations, et on voit par exemple, on est persuadé que le foot c'est pour les garçons et que les filles vont plutôt être attirées par la danse, par exemple. Alors c'est sûr que si on raisonne en termes de pourcentage de féminisation, effectivement, je sais plus, je crois qu'on est à 6-7% de taux de féminisation dans le foot, comparativement aux garçons, et on est à effectivement plus de 50%, alors je sais plus exactement si on est à 70 ou 80%, faudrait vérifier en termes de licence féminine, enfin de taux de féminisation. En revanche, quand on regarde le nombre de licenciés, c'est-à-dire qu'on raisonne en nombre, il y a plus de footballeuses que de danseuses en France licenciées. Alors après, évidemment, il y a beaucoup de danseuses qui sont pas licenciées, parce que justement, on est encore dans cette logique que les filles vont préférer la danse, donc dans les MJC, dans les centres sociaux, dans l'animation, on est tout le temps en train de dire les filles veulent faire de la danse, donc on leur propose de la danse, qui n'est pas une pratique. Enfin,
surtout qu'il y a danse et danse, certaines sont licenciées, d'autres on n'a pas forcément la licence quand on la pratique.
Voilà, mais malgré tout, on dit oui, donc les filles font pas de foot, 7%, mais en même temps, quand on ramène ça, le football, c'est une fédération qui a énormément de licenciés. Quand on ramène ça au nombre de licenciés, le football, c'est la 10e pratique en termes de nombre de licenciés, c'est la 10e pratique des filles, par exemple. Bon, on pourrait citer d'autres choses. C'est vrai que le sport véhicule beaucoup de stéréotypes sexués. Ouais. Et de fait, je suis pas certaine que les diagnostics faits avant de mettre en place des pratiques pour les filles soient toujours justement très bien faits. On fonctionne beaucoup sur nos représentations en tant qu'animateurs, encadrants, de ce qu'on croit être le besoin ou l'envie des filles. Et parfois, c'est... en tout cas, il y a sans doute des choses aussi à réfléchir de ce côté-là.
Et donc justement, à réfléchir, puis aussi il y a des choses, on peut agir aussi déjà en ce moment, c'est déjà pour les équipements aussi. Il y a beaucoup d'endroits en France où en fait on a des équipements sportifs qui sont soit complètement délabrés, ou alors juste placés de manière illogique aussi souvent, comme les endroits où on fait du sport en public dans les quartiers. En fait, c'est pas des endroits qui donnent envie d'aller y faire du sport forcément. Est-ce qu'il y a des actions pour vous, selon vous, les actions commencent à arriver en ce moment en France, ou alors on est encore loin d'atteindre cet objectif?
Quand on regarde les derniers rapports qui sont sortis sur les taux d'équipement sportif en France, on voit bien qu'il y a un sous-équipement très clair dans les zones urbaines sensibles et en campagne. Et donc forcément, oui, vous avez raison, ça joue sur l'attrait des filles, sur l'avenue des filles. On connaît aussi toute la problématique liée au fait que s'il n'y a pas de vestiaire pour les filles, d'un espace où elles peuvent se changer, ou si ce sont des... Il y a forcément une concurrence très forte pour l'accès aux créneaux horaires. On l'a évoqué. Et donc forcément, quand vous avez une association qui brasse moins d'une vingtaine de jeunes filles ou de jeunes femmes, et vous avez des associations qui brassent, 200 gamins, on a tendance à donner davantage de créneaux horaires, et les plus intéressants aux associations ayant un taux de licenciés plus important. Donc du coup, tout ça fait que quand il y a peu d'installations sportives, qu'elles ne sont pas toujours bien adaptées à l'accueil des filles, et qu'en plus il y a une concurrence forte entre associations pour accéder aux créneaux horaires, parce qu'ils veulent tous les mêmes, c'est pas facile, c'est pas facile. Et souvent, la plupart du temps, les responsables politiques, quand on distribue les subventions et les matériels ou financières aux associations, on raisonne en termes de quantitatif, avec des critères, nombre de licenciés, nombre de filles, nombre de garçons. C'est pas toujours à l'avantage des filles. Et je peux revenir sur la question d'avant, je peux vous parler du baseball. Ça m'a fait penser effectivement que moi, dans mon enquête, je montre que les filles font ce qu'on leur propose en fait. Et par exemple, dans le collège, enfin dans le quartier où j'ai enquêté, au collège, il y avait un ancien de PS qui a monté une AS baseball et il y avait beaucoup de filles. Et donc j'avais dans mon quartier beaucoup de baseballeuses, voilà si je peux dire ça comme ça, beaucoup plus que. Alors par contre, j'avais pas de club de foot qui proposait une équipe féminine, donc j'avais pas de footballeuses. Alors bien sûr, si j'avais fait mon enquête dans un autre quartier, s'il y avait une équipe féminine de football, j'aurais forcément vu plus de footballeuses et pas de baseballeuses parce qu'il n'y avait pas de club de baseball. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est plus de se dire que finalement, il y a une offre qui est là et elles vont faire ce qu'on leur propose, quoi. Si les conditions sont réunies, et donc notamment à l'AS, vu que c'était au collège, encadré par un prof de PS, elles étaient attirées par cette pratique parce que le sport scolaire est très important dans le développement de la pratique féminine. Et en mixité, c'était des équipes mixtes où j'avais une quarantaine de filles, une quarantaine de garçons dans cette AS.
Et justement, en ce moment, dans ce sport-là, à Rouen, c'est un club de softball, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de variante pour les femmes, mais c'est presque pareil. Il y a une équipe de softball qui s'est montée à Rouen, et c'est après qu'ils ont créé une équipe mixte parce qu'il y a des mecs qui ont voulu s'y mettre, en fait, pas au baseball, au softball, et ils ont créé une équipe mixte secondaire, hommes et femmes. Mais à la base, c'est parti d'une équipe féminine, et c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, elles sont premières, elles réussissent plutôt pas mal leurs résultats en France. Ouais. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé vos connaissances aujourd'hui. J'espère que vous allez continuer aussi dans vos recherches là-dessus et que vous avez sûrement d'autres conférences comme cette prévue qui arrivent avec la journée de la femme cette semaine.
Alors pas cette semaine, mais je suis à Paris dans 2 semaines pour justement invité par l'association Fémixité pour parler de ces questions-là également. Voilà.
Écoutez, merci et merci. Bonne journée.
Merci.